Frères et sœurs, nous venons d'entendre la lecture du récit des noces de Cana. Jésus est invité avec ses disciples à un repas de noces. Et il semble d'ailleurs que c'est Marie qui a été invitée, et donc on a invité Jésus avec elle et ses disciples. Ils vont manquer de vin, et sur la sollicitation de Marie, Jésus va changer l'eau en vin. Donc il s'agit d'un mariage, mais il faut reconnaître que l'on dit peu de choses des jeunes mariés. Et cela se passe au début de la vie publique du Seigneur. C'est même son premier acte public. En réalité, vous le savez que derrière ce mariage, il y en a un autre. Elle nous est annoncée une autre alliance, celle dont parlait déjà la première lecture. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera comme un jeune marié fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Il s'agit du mariage entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et son peuple, entre Jésus et l'Église. Et vous le savez, ce mariage, cette alliance, se réalise pleinement sur la croix. D'ailleurs, quand Marie s'adresse à Jésus, Jésus lui répond d'un mot peut-être un peu dur, ou qui nous paraît dur. Infâme, mon heure n'est pas encore venue. C'est la même expression que Jésus adressera à Marie sur la croix. Femme, voici ton fils. Et donc cette alliance se réalisera, vous le savez, quand Jésus se livre totalement pour nous. Il aima les siens qui étaient dans le monde et les aima jusqu'au bout. Il donne sa vie jusqu'au pardon, des fautes, jusqu'au pardon accordé à ceux qui le mettent à mort. Nous est dit par là que la relation entre Dieu et l'homme est une relation d'amour, est une alliance, comme dans un mariage. Dieu aime l'humanité et chacun de nous d'un amour passionné, fidèle, qui va au-delà de l'infidélité des hommes. Dieu nous aime, il désire que son amour soit accueilli et que nous l'aimions en retour. Comme dans un mariage, un Dieu librement nous manifeste son amour et nous sommes invités, nous aussi, à répondre librement à son amour. Une alliance entre deux libertés qui s'aiment et choisissent de s'aimer. Alors ça s'applique au mariage, mais ça s'applique à la relation entre Dieu et chacun d'entre nous, entre le Christ et son Église. Alors je ne sais pas quelle est la nature de vos relations avec le Christ. Acceptez-vous qu'il vous aime passionnément. Jésus, sollicité par Marie, sa mère, qui d'une certaine manière pousse Jésus, le pousse à anticiper son heure, va transformer l'eau en vin. Le vin nouveau dans la Bible représente la nouveauté de la vie de Dieu, la joie de la vie de Dieu. Par Jésus nous est donnée la vie nouvelle. La présence de Jésus, sa mort et sa résurrection nous donnent la vie nouvelle. Il est précisé qu'il y avait, ça m'a toujours étonné d'ailleurs, qu'il y avait donc 600 litres d'eau, donc 600 litres de vin. Pour être très honnête, j'y connais pas grand-chose, mais je crois que ça fait beaucoup pour un mariage. Surtout qu'ils sont déjà à la fin du repas et qu'ils ont déjà bu. C'est beaucoup trop, plus que le nécessaire. Cela signifie que l'amour de Dieu est surabondant. Dieu nous aime d'un amour surabondant. Nous ne sommes plus dans l'ordre de la nécessité, nous sommes dans l'ordre de la gratuité, de la surabondance absolue. Je ne sais pas si vous avez expérimenté dans vos propres vies l'amour surabondant, infini, infiniment miséricordieux. En tout cas, demandons-lui ensemble de goûter à cet amour. Demandons-lui en priant les uns pour les autres. Le texte de l'Évangile précise aussi que le vin est bon, qu'il est meilleur que le premier. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Quand nous vivons avec le Christ, quand nous lui laissons une vraie place dans nos existences, nous expérimentons que plus le temps passe, plus le vin est bon. Vous savez, dans la vie du monde, souvent, le meilleur est au début. Puis avec le temps, c'est moins bon. En Dieu, le meilleur est toujours à venir. Plus on avance avec lui, plus nous découvrons la beauté, la bonté du mystère de son amour. Je vous rappelle qu'il y a un autre passage de l'Évangile qui fait allusion au vin nouveau. Vous vous souvenez, Jésus nous invite à recevoir le vin nouveau, mais on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, à vin nouveau, nouvelles outres. Pour accueillir la nouveauté de l'amour de Dieu, il nous faut changer les outres, qui sont parfois simplement nos manières de vivre. En un mot, pour accueillir l'alliance nouvelle, il faut nous convertir. Changer. Vous le savez, donc, en ce dimanche est consacré de manière particulière aux migrants et aux réfugiés. Cette journée est, me semble-t-il, une invitation à accueillir la nouveauté, donc aussi à une forme de conversion. Le pape François, à propos de cette journée, nous invite encore une fois à nous laisser interpeller par la présence de nos frères et sœurs qui ont dû quitter leur pays pour fuir la violence, la guerre, la persécution parfois, les situations économiques dramatiques. À travers eux, Dieu nous parle. Il a quelque chose à nous dire. Et permettez-moi d'insister sur quelques points. Le premier, je vous rappelle que toute la Bible est traversée par des récits de migration, parfois voulus et réfléchis, parfois subis, dictés par les circonstances. Cela va de Abraham, qui quitte son pays pour aller vers le pays que Dieu lui promet. Mais c'est aussi le récit de l'aventure de Joseph. Le peuple est entraîné et conduit à venir en Égypte à cause de raisons de la famine, de raisons économiques. Mais aussi, je pense à l'Exode, Moïse, qui fuit l'esclavage. Mais je pense aussi à la déportation jusqu'à Babylone. Et je n'oublie pas la Sainte Famille, Joseph, Marie, Jésus, qui devront partir en Égypte pour fuir la violence d'Hérode. Dieu va se révéler à travers ces migrations, choisies ou subies. Et la révélation de l'alliance entre Dieu et l'homme, si vous lisez attentivement l'Écriture, se réalise avec un peuple en exode. Peut-être que c'est une manière de nous rappeler aussi que nous-mêmes, nous ne sommes que de passage en ce monde. Comme dit la fameuse lettre à Diognète, étranger domicilié. Ça, c'est le nom, c'est ce qu'il donne comme nom aux chrétiens dans le monde. Deuxième point, simplement sur lequel j'attire votre attention, nous avons à sortir de la tentation ou à nous protéger de la tentation de l'indifférence. Le pape François ne cesse de parler de mondialisation de l'indifférence. Il nous faut entendre le cri et les pleurs de milliers de personnes, de familles, d'enfants qui fuient les guerres, les horreurs, les persécutions, les violations du droit des droits humains ou les situations d'instabilité politique ou sociale qui rendent impossible la vie dans leur pays, dans leur patrie. Il nous faut entendre le cri de ceux qui fuient la misère extrême à cause de l'impossibilité de nourrir leur famille. Ne nous habituons pas à ces situations de pauvreté, au drame que vivent tant d'hommes et de femmes. Écoutons le cri des nombreux migrants qui ne laisseraient jamais leur pays s'ils n'étaient pas contraints de partir. Demandons au Seigneur d'entendre ce cri et d'en être bouleversé. Je vous cite le pape François. On aurait pu affronter une grande partie des causes de la migration, ou du moins adoucir les conséquences les plus cruelles. Encore aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, nous pouvons faire beaucoup pour arrêter les tragédies et construire la paix. Mais cela signifierait remettre en cause les habitudes, les pratiques établies, la commercialisation des armes, le mode d'approvisionnement des matières premières, la politique financière et la plaie de la corruption. On pourrait améliorer à condition de nous convertir. Dieu n'est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur. Il prend soin de chacun d'entre nous. Même quand nous l'abandonnons, chacun de nous l'intéresse. Son amour l'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui arrive à nos frères et sœurs. Troisième, simplement, insistance, nous sommes entrés, vous le savez, dans l'année de la miséricorde. Nous sommes invités de manière plus pressante à fixer notre regard sur la miséricorde afin de devenir nous aussi signes efficaces de l'agir du Père. Et une des dimensions essentielles de cette année de la miséricorde, et plus j'y réfléchis, plus j'en prends la mesure, c'est l'invitation à vivre de ce que la tradition de l'Église, depuis toujours, appelle les œuvres de miséricorde. Vous savez, corporelles et spirituelles. Et je me permets, quitte à vous fatiguer un peu, à vous les rappeler. C'est dans la tradition de l'Église, il y a 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. La première œuvre de miséricorde corporelle, c'est nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, visiter les prisonniers, accueillir les étrangers, ensevelir les morts. Et les œuvres spirituelles sont consoler les affligés, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, réprimander les pécheurs, pardonner à ceux qui nous offensent, supporter l'injustice avec patience, et prier pour les vivants et les morts. L'évangile de la miséricorde est la réponse à l'interpellation, au cri que nous lancent les migrants et les réfugiés. C'est la miséricorde de Dieu dans nos vies, mise en œuvre dans nos comportements, qui peut nous guérir et nous libérer de la peur et de la méfiance vis-à-vis de l'autre, et surmonter les préjugés et les peurs qui nous disposent à recevoir, à nous recevoir les uns des autres. Alors, frères et sœurs, vous qui avez quitté votre pays, vous êtes nos frères et sœurs. Un Dieu est avec vous et nous avons aussi besoin de vous. Dans l'Évangile, Marie, mère de Jésus, dit au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Cette parole est pour nous tous, d'une certaine manière, aujourd'hui, Marie s'adresse à nous tous ici, dans cette église, et elle nous dit, en parlant de son Fils, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors faisons ce que Jésus nous demande. Alors le vin nouveau de son amour et de sa miséricorde viendra réjouir nos cœurs et l'humanité.